Jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme, Radio Zone. Le soleil vient de se baisser, la lune entre dans vos oreilles sur 93.8 MHz, Sainte Femme, Radio Zone. Et oui, malgré le soleil, malgré la chaleur, on sent le printemps qui vient, la lune est toujours présente. Tous les mercredis à partir de 6h30 sur 93.8 MHz. Si elle n'est pas dans le ciel, c'est facile, allumez la radio et vous la trouvez. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels. Et puis Marjolaine vous ouvre son cœur. Il a l'air très gros vu la pile que je vois sur la table. À tout de suite. Radio Pleine Lune 3.8 MHz, Sainte Femme, Radio Zone, nos nouvelles. Au Tchad, une fatwa a été lancée contre la cinéaste Zahra Mahomet Yacoub après la diffusion de son film Dilemme au féminin. Ce film, réalisé en novembre 1994, montre entre autres une scène d'excision, c'est-à-dire la mutilation du clitoris et par conséquent la nudité d'une jeune fille. La fatwa est une condamnation à mort lancée par une autorité religieuse qui juge un acte blasphématoire. La fatwa donne ainsi à n'importe qui le droit d'assassiner en toute bonne conscience et au nom de la religion. C'est enfin 1995 que ce film a été diffusé. Et c'est après la diffusion que, sur ordre du Conseil supérieur des affaires islamiques et de l'imam de la grande mosquée de la ville, la quinzaine de mosquées que compte la ville de N'Djamena ont maudit, excommunié et condamné Zahra Yacoub dans leur prêche. Pour avoir montré cette scène d'excision, donc une scène de nudité, et une interview de l'imam en chef dans son film, elle est accusée d'avoir offensé la religion musulmane et terni l'image de tous les musulmans du Tchad pour avoir montré son film à l'étranger. Une action urgente a été lancée pour la soutenir par le réseau des femmes vivant sous loi musulmane. Vous pouvez entre autres écrire à Zahra pour l'assurer de votre soutien. Le fax est le 235-525-884. Je répète, 235-525-884. En Turquie, la victoire des islamistes du Parti de la Prospérité s'appuie sur une large mobilisation des femmes. Le REFA, Parti de la Prospérité islamique, qui est arrivé au pouvoir, semble avoir capté bien plus vite que la plupart des partis libéraux les vents du changement, en donnant une priorité particulière au recrutement des femmes. Il cherche d'une part à élargir sa base et d'autre part à détruire l'image qu'on a d'un parti islamique, celui d'un parti rétrograde qui veut maintenir les femmes à la maison. On peut discuter de sa sincérité dans son accueil de tous ses nouveaux membres, mais il est certain qu'il réussit mieux que ses rivaux à attirer les femmes. Les femmes du RFA s'imposent activement dans la vie politique. Après leur adhésion, elles suivent un stage intensif et sitôt leur formation terminée, elles partent à la conquête de nouveaux membres. En faisant du porte-à-porte, elles expliquent la politique de leur parti et essayent d'attirer d'autres femmes dans des réunions informelles organisées chez l'habitant. Le programme de formation des militantes est très élaboré et comprend l'étude détaillée de l'ordre juste prônée par le RFA, ainsi que d'autres connaissances que doit avoir toute bonne militante, de l'économie à la politique internationale, en passant par l'écologie, l'addiction ou l'art oratoire. La formation qu'on propose aux femmes vise aussi à les aider à s'insérer dans la vie professionnelle. Celles qui ont déjà un diplôme universitaire mais qui n'arrivent pas à être embauchées dans leur profession à cause du voile islamique, notamment dans la fonction publique, trouvent souvent des emplois dans le privé, notamment dans les publications éditées par les milieux d'affaires proches du RFA. Les femmes du RFA surveillent attentivement le moindre événement dans leur quartier. Les mariages, les funérailles, les naissances et les déménagements, rien n'échappe à leur vigilance. Les militantes sont tenues de participer personnellement à ces événements afin de mieux se faire connaître, pour partager aussi la joie ou le malheur des habitants du quartier et s'imposer d'autant plus. Chaque commission ou groupe a un objectif, le recrutement, parvenir à regrouper au moins un quart de la population féminine sous le drapeau du parti islamique RFA. Au Brésil, les femmes prennent des armes pour se défendre. Face à l'ampleur de la violence au Brésil, les réponses se multiplient. Dans un pays habitué au machisme, où les questions de défense sont une affaire d'hommes, l'éclosion d'un mouvement de femmes armées est un phénomène assez nouveau. C'est le Madame Venina Rosa Ponte, l'une des femmes membres d'un groupe armé, raconte la naissance de cette tendance. Tout s'est passé de façon spontanée. Au début, les femmes ont commencé à s'armer dans le but de faire face aux voleurs, aux agressions, aux menaces de viol. Au lendemain de Noël 1994, l'une des dames de l'association est agressée et cambriolée par une bande de jeunes voyous. La victime, aidée de 4 autres amis, part à la recherche des délinquants. À force d'enquêter, ce groupe de femmes téméraires a finalement retrouvé les agresseurs. Armes à la main, elles ont fait justice. Un des 4 malfaiteurs a été tué. Une année plus tard, le nombre des femmes qui portent des armes est en constante augmentation. À Sao Paulo, la police a d'ailleurs dû intervenir pour contrôler un groupe de femmes armées qui avait rattrapé un violeur à la sortie d'une discothèque. Ses copains qui voulaient le secourir ont été arrosés de coups de feu dans les organes génitaux. Pour les sociologues qui se penchent sur la violence au Brésil, il s'agit d'une riposte. Il faut rappeler que les plaintes des groupes féministes qui affirment que chaque fois qu'un viol ou des agressions à connotation sexuelle sont dénoncées, la police ne croit pas la victime. L'apparition de ces nouvelles bandes n'est bien sûr pas très bien tolérée par les autorités et la police. Des associations pacifistes et religieuses condamnent également ce qu'ils appellent les femmes paramilitaires. Cependant, ces organismes s'indignent aussi de la partialité des policiers qui acceptent l'existence de ces groupes dans certains cas à connotation sociale marquée. Des filles armées circulent à moto, sont tolérées dans les quartiers chics de Rio de Janeiro, tandis que les femmes domestiques des favelas sont emprisonnées pour avoir un couteau dans leur poche. On refuse aux pauvres le droit d'arguer l'autodéfense comme justification. La pédiatre Zhang Shuin, qui avait révélé l'affaire des orphelins mourants, a été chassée de Chine. Elle a perdu son emploi et a été contrainte de quitter son pays, mais affirme qu'elle n'a pas de remords. Cette femme de 53 ans a amené avec elle à Londres un dossier prouvant que les orphelinats de son pays mettent en œuvre une politique délibérée consistant à laisser mourir de faim ou faute de soins les enfants malades ou handicapés. Watch Asia, après ces documents, a établi que des milliers d'enfants considérés comme indésirables ont été livrés à la mort en Chine dans le cadre d'une politique de contrôle de la population. Les reportages de la télévision anglaise, tournés par des caméras cachées et montrés des enfants squelettiques attachés sur leur lit, avaient choqué l'opinion et provoqué la colère de Pékin. Mais ce qui est le plus grave dans cette histoire, c'est que madame, le docteur Zhang Shuin s'est vu refuser l'asile politique en France, ainsi que le jeune orphelin Ai Ming qui l'accompagnait, qui a subi le même sort. Tous deux avaient fui leur pays donc pour échapper aux persécutions dont ont déjà été victimes plusieurs personnalités tentant de sensibiliser les autorités à cette tragédie. Ainsi, le frère de la doctoresse a été arrêté le jour de la diffusion de l'émission télévisée dans laquelle sa sœur dénonçait les agissements criminels des responsables d'orphelinat. Des députés et des avocats désirant l'ouverture d'une enquête indépendante ont eux aussi été inquiétés. La doctoresse, se sachant directement menacée, avait quitté la Chine en mars et gagné l'Angleterre avec des registres consignant l'arrivée à l'orphelinat. Plus généreuse que la France, qui tient à sauvegarder ses intérêts commerciaux en Chine, l'Angleterre a fini par accorder l'asile à la courageuse doctoresse. En visite à Paris, le président argentin Menem doit répondre sur la question des disparus pendant la dictature, en particulier de la disparition de deux religieuses françaises. Des révélations sur le sort de ces deux religieuses disparues en Argentine sous la dictature de 76 à 83, Alissa Daumont et Léonie Duquet, ces révélations risquent de ternir sérieusement le climat de cette première visite officielle du chef de l'État argentin depuis sa réélection en 95. Dans une lettre au président Menem rendue publique à la fin de la semaine dernière, l'ancien officier de marine Adolfo Silingo affirme que les deux religieuses furent anesthésiées avant d'être précipitées d'un avion dans le delta du fleuve Panama. Il y a un an, cet ex-capitaine de frégate révélait à la télévision les méthodes employées par les militaires pour faire disparaître les corps des prisonniers politiques lors de vols auxquels il avait lui-même participé. Condamné par contumace à la réclusion à perpétuité en 90 par la justice française pour séquestration et torture des deux religieuses, il ne peut quitter l'Argentine en raison, bien sûr, du mandat d'arrêt international, mais en Argentine, il est relativement peu inquiété. Outre les protestations dues à cette affaire, quatre ONG, dont ACT UP, s'apprêtent également à manifester contre le décret argentin obligeant depuis décembre tout le personnel de l'armée et de la police à se soumettre au test du sida. La Turquie met des bâtons dans les roues à un groupe de femmes suisses venues visiter des prisonniers et des prisonnières politiques kurdes. Les femmes suisses avec lesquelles la conseillère nationale Angelina Frankhauser voulait se rendre en Turquie ont été interpellées et entendues pendant 5 heures au début de la semaine près de Diyarbakir. Après l'interdiction d'entrer en Turquie, signifie Angelina Frankhauser, le groupe d'une dizaine de femmes est malgré tout parti la semaine dernière dans ce pays. Alors qu'elles se trouvaient près d'une ville à majorité kurde, elles ont été appréhendées par les forces de l'ordre. Elles ont été relâchées après avoir été entendues pendant 5 heures. L'armée et la police ont participé à leur interpellation. Mardi, le groupe avait relié Istanbul. Elles se sont notamment plaintes que la police turque avait confisqué une liste de noms de personnes disparues. Demande à leurs Suisses, ces femmes donc... et elle a également saisi un communiqué. Excusez-moi. La police a donc saisi une liste de noms de personnes disparues communiquées par une organisation de défense des droits de l'homme, ainsi que des notes de voyage et des témoignages écrits. La semaine dernière, donc, Angelina Frankhauser s'était vue interdire l'accès à la Turquie. Elle devait partir avec ce groupe de femmes, notamment parce qu'elle entendait rendre visite en prison avec le groupe de femmes à la parlementaire kurde Leyla Zana. La conseillère nationale et secrétaire centrale de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière avait qualifié la décision turque de gifle à la Suisse. Le groupe de femmes qui revient demande également à ce que les autorités suisses prennent position dans cette affaire. En En France, 9 militants anti-avortement condamnés. La cour d'appel de Grenoble a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 francs d'amende les 9 membres d'un commando anti-avortement, dont un moine bénédictin qui avait investi en octobre 1994 le centre hospitalier de Grenoble. Les défenseurs du droit à l'avortement se sont déclarés déçus par cette décision de la cour. Plus d'une centaine de centres IVG ont été attaqués depuis 6 ans et jusqu'à présent, aucune peine n'a été prononcée de manière définitive. Seuls jusqu'à présent, les tribunaux de Roanne et de Valenciennes ont prononcé dans des affaires similaires des peines de prison ferme allant de 18 mois, dont 9 avec sursis, à 18 mois, dont 15 avec sursis. Selon une enquête de l'Institut national des statistiques en France, l'homme est mobile, la femme est chômeuse. La mobilité professionnelle, cette tarte à la crème des temps modernes qui oblige les familles à déménager pour un oui ou un non, profite peut-être à l'économie, mais pas aux femmes. Une étude de l'INSEE en France prouve que la mobilité est généralement l'affaire du mari et qu'elle se traduit par le chômage de la femme qui perd du coup son emploi. Et comme la femme met deux fois plus de temps à retrouver un job que l'homme, notent les enquêteurs, la mobilité représente pour elle un sacrifice très important. Après les déclarations des évêques français en faveur du préservatif, les intégristes catholiques suisses partent à l'assaut. Pour eux, le préservatif reste un instrument du vice. La fraternité sacerdotale Saint Pie IX, intégriste catholique, a vivement critiqué la position indulgente de l'épiscopat français face au préservatif. La fraternité, basée dans le canton de Zoug, estime que le sida est un châtiment choisi par Dieu pour punir l'homosexualité. Le préservatif, disent-ils, ajoute le péché d'onanisme à la fornication, en frustrant l'acte charnel de son aboutissement naturel et en ajoutant sa difformité supplémentaire au péché déjà contre nature de l'homosexualité. La fraternité place le préservatif au même niveau que l'euthanasie et l'avortement. À ce propos, j'ai été relativement choquée par l'opinion du journaliste Dominique Chouet de la Tribune de Genève qui rapportait cet article. Ce journaliste, pourtant, dans une belle indignation, fustigeait les propos intégristes. Et pourtant, sans s'en rendre compte, du moins je l'espère, il reproduit en filigrane la même intolérance. Je vous explique son article. Pour lui, cette position des intégristes est terrible parce que parmi tous les morts du sida, il n'y a pas que des homosexuels. Eh oui, disent-ils. Parmi les 5 000 malades du sida déclarés en 95 en Suisse et dont plus de 3 000 sont morts, seulement 1986 seulement sont des hommes homo ou bisexuels. Si Dieu, comme le croit la fraternité, a voulu punir ces derniers, il a eu la main drôlement large, frappant du même coup pas moins de 3 000 innocents, dont plus de 1 000 femmes. Et oui, vous l'avez entendu, il y a les innocents et les autres. En tout cas, les homosexuels, eux, ne sont pas innocents. Et si la maladie ne s'en prenait qu'à eux, on ne s'en plaindrait pas du tout. Eh bien, malgré votre bonne volonté, monsieur Dominique Chouet, vous recevez le chapeau du sexiste. En Suisse, assurance maternité de nouveau en crise, le compromis négocié par les femmes tombe lors du quatrième congrès des femmes. Un compromis avait été trouvé entre les différents partis. Et bien, ce compromis vient de casser effectivement le problème de l'extension de l'assurance maternité à toutes les femmes, qu'elles travaillent ou non, et le financement mixte de la nouvelle assurance par des versements des employeurs et par le recours à la TVA ont été les deux points sur lesquels la dissension s'est faite. Ça reste la pomme de discorde entre femmes bourgeoises et les socialistes. C'est surtout les femmes du Parti démocrate chrétien qui veulent absolument que toutes les femmes puissent toucher cette assurance maternité. Le PDC entend couvrir toutes les femmes par l'assurance maternité sans ponction particulière sur les salaires. À Berne, l'influente commission fédérale mise sur les quotas pour atteindre l'égalité homme-femme. La commission fédérale pour les questions féminines frappe un grand coup. Elle dit un oui de principe aux quotas homme-femme. Pour l'essentiel, elle est même pour l'initiative. La commission pousse pour l'essentiel dans la même direction que l'initiative populaire pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales, lancée au moment où Christiane Brunner n'avait pas été élue en 1993. Il faudront 3 sur les 7 membres du conseil fédéral, il faut au moins 3 femmes. Au conseil national, chaque délégation cantonale compterait autant de femmes que d'hommes. Au conseil des États, la règle serait la même pour chaque délégation cantonale de 2, un homme et une femme. Au tribunal fédéral, 40% des juges et suppléants seraient des femmes. La commission plaide en outre en faveur des droits sociaux fondamentaux qui obligent l'État à agir pour l'instauration d'une société plus juste. Le travail social non rémunéré doit être réparti entre hommes et femmes et ne plus reposer seulement sur les épaules de ces dernières, de même que les soins aux enfants. À Genève, l'État offre une villa aux unions chrétiennes féminines. Cette villa, installée dans l'ancienne route du Grand Saint-Connet, devient donc le nouveau siège de l'Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines. Cette villa a été inaugurée la semaine dernière en présence, entre autres, de Philippe Joye du gouvernement. Fondée en 1894, l'Alliance mondiale des unions chrétiennes familiales est aujourd'hui active dans presque 100 pays et compte plus de 25 millions de membres, femmes et jeunes filles. Leur objectif est de lutter pour une société plus juste et pour une participation active des femmes à tous les niveaux sociaux. Les UCF se caractérisent encore par leur engagement dans la défense des droits humains en dénonçant les causes du sous-développement responsable des lacunes en matière d'égalité et de démocratie. Et pour terminer, quelques rubriques je ne sais pas très bien comment les appeler. Je pourrais l'appeler la rubrique de l'absurde, moi aussi. Première nouvelle. Le Conseil fédéral aime les défilés militaires. Eh oui, les défilés militaires donnent à la population l'occasion de voir de temps en temps la troupe de plus près. C'est ce qui justifie aux yeux du Conseil fédéral le maintien de ces manifestations. C'est ce qu'il explique en réponse à une interpellation de la conseillère nationale Pia Hollenstein. Le 21 novembre dernier, les Genevoises et les Genevois ont honoré le défilé du régiment d'infanterie par une présence impressionnante, relève le Conseil fédéral. Cette réaction a renforcé le gouvernement dans ses convictions, d'autant que les apparitions publiques de l'armée se font de plus en plus rares. Comme le disait à l'occasion des émeutes qu'a provoqué ce défilé le chroniqueur de la revue Pierre Natulf, les gens étaient tellement enthousiastes qu'ils allumaient des feux de joie et lançaient des fleurs avec les pots. Et puis toujours à l'occasion sur l'absurde du DMF, vous savez que le DMF est en ébullition avec toutes les histoires qu'il agite, eh bien la fameuse histoire Niffenegger a-t-elle été révélée par une enquête sérieuse de la police ou du DMF lui-même? Pas du tout, il a été révélé par la propre femme du capitaine Niffenegger qui en avait marre de son mari et est allée révéler le pot rose. Et c'est pour ça que cette affaire s'appelle l'affaire Pandora. Et oui, en allusion à cette mi-déesse grecque qui ouvrit le vase de Pandore et en fit sortir tous les malheurs. Mais on espère que cette fois-ci, les malheurs ne sont pas si grands. Et puis, pour continuer dans ma rubrique de l'absurde, j'ouvre aujourd'hui une nouvelle rubrique que j'intitule « Les États-Unis, règne de la barbarie et de la connerie ». Et oui, c'est une nouvelle rubrique parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aux États-Unis, la connerie, que dis-je, la barbarie, vole très haut. Savez-vous par exemple que le candidat réactionnaire, Pat Buchanan, anti-avortement, anti-droit civique, anti-noir, anti-ex-pauvre, a tellement mis en pratique son mot d'ordre « l'Amérique aux Américains » que les journalistes étrangers ne sont pas bienvenus dans ses conférences de presse. Et puis, autre petite histoire, aux États-Unis, à force de mettre le tabac hors la loi, les Américains ont réussi à en faire un objet de fascination érotique et du coup ont lancé une nouvelle série qui s'appelle les Smoking Videos. Comme connerie, on ne fait pas mieux. Voilà une, par exemple un scénario d'un Smoking Video. Une scène avec une jeune femme blonde, avec une robe, sans bretelles, un chapeau, une voilette, qui allume une cigarette à l'aide d'une bougie. Et elle la fume. Et c'est tout ce qui se passe pendant 30 minutes. Voilà. C'était les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, je vous donnerai quelques rendez-vous. Et puis Marjolaine vous ouvre son cœur. Alors, c'est le mois de mars bientôt, et le mois de mars, il se passe toujours des choses incroyables. Alors, ouvrez votre agenda. Premier rendez-vous le mardi 5 mars. C'est Patricia Schulz, déléguée aux questions féminines, qui viendra vous parler sur la condition féminine après la conférence de Pékin. La chef du bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes est allée à Pékin. Elle parlera au cercle Condorcet de Genève. Elle parlera à l'UNI, à l'université UNI 2, à la salle U260 à 20h15. C'est une conférence organisée par le Cercle Condorcet de Genève. Et puis, un autre rendez-vous, c'est le 6 mars, les femmes en noir, comme tous les premiers mercredis du mois, vous invite à 18h15 pour une quelques minutes de silence à la zone piétonne du Mont-Blanc, rassemblement des femmes en noir pour protester toujours sur la situation en ex-Yougoslavie. Et puis, bien sûr, ça va être le 8 mars. Alors, le 8 mars, c'est un beau programme. Cette journée internationale des femmes sera placée sous le thème des bonnes. Des femmes de ménage, de ces esclaves modernes souvent. Avec toute une série d'actions, de films, de discussions, de débats. Ça commence par du théâtre. Avec les petites femmes silencieuses, c'est le 8 mars à 12h30 à la place du Bourg de Four sur le thème « Employés domestiques, des travailleuses, non des esclaves ». Ça continue le 8 mars par des films au Grutli à 19h. Vous pourrez voir Carnet de route. C'est le train de la paix qui est parti à Pékin depuis Helsinki cet été. Film fait par Vania Bambarger. Ce sera suivi par un autre film de Karine Albert sur la nature du pouvoir et les possibilités offertes aux femmes de l'exercer. Les deux réalisatrices seront là et on pourra discuter avec les réalisatrices. Et puis ça se terminera par de la musique. C'est Catherine Joie qui nous fera danser avec en plus un groupe, l'affaire Tournesol. Ça continue le 9 mars avec à la Maison des Arts au Grutli des débats, des films, des stands d'information. On pourra discuter avec sur la problématique de l'ex-Yougoslavie avec une membre de l'équipe d'animation du Medica qui parlera donc des centres thérapeutiques pour les femmes violées en Bosnie. Et puis à 18h30 avec des membres du syndicat Sans Frontières de Genève et des représentants des organisations d'émigrés, entre autres Philippines, en Suisse, on parlera de la situation des employés domestiques. Et puis ensuite, c'est des films, ou plutôt en parallèle, c'est des films. Fonction Cinéma ouvre ses portes avec, vous pourrez revoir Carnet de route, l'exercice de Power, mais aussi L'Algérie dévoilée de Ali Akika. Un film réalisé par des femmes cambodgiennes sur le problème des mines. « Sommes-nous l'ennemi ?» demande-t-elle. Et puis le magnifique film de l'Indienne Dipa Daranj, « Presque une guerre » sur le problème de la stérilisation des femmes en Inde. Voilà, un programme extraordinaire. Et puis en même temps, au Palais des Nations se tiendra aussi le séminaire de la Journée internationale des femmes. On en reparlera encore la semaine prochaine. Dans quelques instants, Marjolaine vous ouvre son cœur. À toutes, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Charge your brain.